Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé. Un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. Journée mondiale du rein. C'est l'occasion pour les experts de la santé de rappeler aux particuliers l'importance de cet organe et les moyens d'en prendre soin.
Le diabète et l'hypertension sont les causes principales de l'insuffisance rénale. Et malheureusement, tout le monde n'est pas égal face à la maladie.
Une directrice de campagne pour la Journée mondiale du rein, Sophie Dupuis, reviendra sur les principales causes des insuffisances rénales. C'est officiel, la plus grande lune de Jupiter, Ganymède, possède bel et bien un vaste océan d'eau salée.
L'océan de Ganymède est plus vaste que tous ceux de la Terre réunis. Selon les observations dévoilées jeudi et réalisées grâce au télescope Hubble de l'agence spatiale américaine, la NASA.
Chérubin d'Orcy aura tous les détails et savez-vous que la poussière du Sahara fertilise l'Amazonie? À l'occasion de la Journée mondiale du rein, organisée chaque deuxième jeudi du mois de mars depuis 2006, la Fédération internationale des fondations du rein et la Société internationale de néphrologie appelaient les particuliers à prendre un grand verre d'eau. Le thème de cette journée, des reins en bonne santé, c'est vital pour tous. Ces organisations diffusaient également des informations, conseils de prévention, tout en préconisant des tests de dépistage. Jointe à Bruxelles, une directrice de campagne pour la Journée mondiale du rein, Sophie Dupuis, revient sur les principales causes des insuffisances rénales.
Le diabète et l'hypertension sont les causes principales de l'insuffisance rénale. Et malheureusement, tout le monde n'est pas égal face à la maladie. Mais il y a aussi certaines communautés, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, qui sont plus exposées que d'autres à l'insuffisance rénale, notamment les personnes d'origine africaine, les Indiens d'Amérique, les populations hispaniques, asiatiques, mais aussi aborigènes, sont en fait plus connues pour souffrir davantage de diabète et d'hypertension. Et donc, elles sont plus à risque de développer un jour une insuffisance rénale.
Est-ce qu'on sait pourquoi ces populations sont plus à risque?
En fait, certaines populations sont connues, notamment les Afro-Américains aux États-Unis, sont connues pour avoir une tension artérielle plus élevée et développer des problèmes d'hypertension plus jeunes. Et donc, forcément, sont plus à risque alors que d'autres populations d'attraper un jour une maladie rénale, puisque l'hypertension est une cause principale de l'insuffisance rénale, en fait.
Est-ce que c'est dû à leur régime alimentaire?
Je pense que c'est génétique, d'une part. Mais alors, ça, c'est une bonne question, parce que d'autre part, il y a d'autres facteurs aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Et notamment, dans certaines régions du monde, il y a un mauvais accès à l'eau potable, il y a un manque d'hydratation correcte. Les gens, dans certaines villes, dans certains pays, mangent mal, boivent des sodas plutôt que de boire de l'eau, etc. Donc, en fait, l'hygiène de vie joue aussi un rôle dans les risques que l'on prend pour développer une insuffisance rénale, en fait.
Pourquoi est-il si difficile de traiter les maladies rénales?
Le problème des maladies rénales, c'est que c'est insidieux parce que c'est une maladie silencieuse. On dit qu'on peut perdre jusqu'à 90% de sa fonction rénale avant de ressentir les premiers symptômes de la maladie. Donc en fait, si l'insuffisance rénale est détectée à temps, alors on peut la traiter et éviter d'arriver au stade terminal ou alors on a besoin de dialyse ou d'une transplantation pour pouvoir continuer à vivre. La dialyse, c'est un traitement qui est excessivement contraignant parce que ça nous oblige à aller 3 fois par semaine à l'hôpital pendant plusieurs heures. Et donc, ça altère de façon significative la qualité de vie. Mais c'est aussi un traitement qui est extrêmement cher. Et donc, dans certains pays et pour certaines personnes, c'est même malheureusement une condamnation à mort parce que les traitements adéquats sont difficilement disponibles ou alors parce qu'on ne peut justement pas se les permettre. Et donc, c'est pour ça qu'on va absolument faire de la prévention. C'est insister sur le fait que les maladies rénales existent, les rendre connues pour que les gens puissent savoir que ça existe et pour savoir aussi qui sont les personnes à risque et que ces personnes à risque puissent se faire tester à temps pour pouvoir se faire traiter. Parce que s'ils arrivent jusqu'à une insuffisance rénale terminale, donc au moment où ils ont besoin de dialyse ou de transplantation, c'est très difficile. Par contre, Si on prend la maladie à temps, alors on peut la traiter en fait.
Pourquoi offrir un verre d'eau à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin ?
Alors ça en fait c'est une action symbolique que l'on a lancée. On cherchait quelque chose autour des reins et quand on parle des reins, beaucoup de gens pensent à l'eau. Alors on n'est pas en train de demander à tout le monde de boire une certaine quantité d'eau tous les jours. L'idée c'est de dire, voilà, aujourd'hui le verre d'eau que l'on va boire, on va le lever et on va le boire à la santé de nos reins. Et en le buvant à la santé de nos reins, on va démarrer une conversation avec notre voisin ou avec notre ami ou avec notre collègue et expliquer ce que l'on sait de l'insuffisance rénale. On sait très bien que certaines personnes qui sont notamment sous dialyse ne peuvent pas dépasser une certaine quantité d'eau ou une certaine quantité de fluide par jour. Donc on ne veut pas non plus demander aux gens de boire autant de verres d'eau ou autant de litres d'eau par jour. C'est pas ça le but de cette action. C'est vraiment symbolique. C'est leur dire, voilà, l'eau c'est important pour les reins. Aujourd'hui je bois un verre d'eau, je le bois à la santé de mes reins et je suis au courant maintenant que je pourrais potentiellement être à risque d'un jour attraper une maladie rénale si j'ai du diabète, si j'ai de l'hypertension et je vais aller en parler à mon médecin et j'explique ça à mon voisin. C'est vraiment une action symbolique en fait. Je continue d'insister sur l'importance de la prévention, que les gens qui sont à risque doivent absolument en parler à leur médecin et éventuellement demander à leur médecin de faire un test. Les tests, c'est très simple, c'est soit un test urinaire, soit une prise de sang. Donc c'est vraiment très simple et on peut très facilement détecter cette maladie.
Madame Sophie Dupuis, elle était jointe à Bruxelles, en Belgique. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. De nouveaux travaux parus dans Geophysical Research Letters confirment que la poussière du Sahara fertilise le bassin de l'Amazone. Le point avec Anne Albertson.
Impossible depuis l'espace de ne pas voir ces gigantesques nuages de poussière qui s'élèvent du Sahara et que les vents poussent vers l'Atlantique avant qu'ils échouent dans la mer des Caraïbes, au-dessus de la Floride ou encore en Amazonie. Chaque année, cette poussière tombe en quantité suffisante pour remplacer le phosphore qui s'échappe des sols de médiocre qualité de l'est du Brésil sous l'effet des pluies et des inondations. Cet élément nutritif est essentiel pour assurer la croissance des végétaux et la forêt dépend de cet apport qui avoisine les 22 000 tonnes par an selon la NASA, l'agence spatiale américaine. Dès les années 1970, explique Joseph Prospero de l'université de Miami, l'aridité du Sahel s'est accentuée et de ce fait, la quantité de poussière a augmenté. On savait qu'il y avait beaucoup de poussière, c'est évident. Quand il pleut à la Barbade ou encore à Miami durant l'été, on trouve une couche de boue au fond d'un seau, tant l'eau de pluie est chargée de poussière, explique le professeur Prospero. Les scientifiques se basent pour leurs conclusions sur des données recueillies par le satellite franco-américain Calypso. Elles ont permis d'estimer la quantité de particules transportées depuis le Sahara jusqu'en Amazonie pour une période de 7 ans. En moyenne, 28 millions de tonnes de poussière s'abattent sur l'Amazonie chaque année, précise la NASA. C'est stupéfiant à cause des quantités phénoménales de poussière et de phosphore, explique Hongbin Yu de l'Université du Maryland, qui est également directeur de ses travaux de recherche. La poussière africaine est essentielle pour empêcher l'épuisement du phosphore dans le bassin de l'Amazone, précise-t-il.
Camille Grosdidier qui vous rappelle que vous suivez Carrefour Science et Santé sur VOA Afrique. C'est officiel, la plus grande lune de Jupiter, Ganymède, possède bel et bien un vaste océan d'eau salée sous son épaisse croûte glacée. Le point avec Chérubin d'Orcil.
L'océan de Ganymède est plus vaste que tous ceux de la Terre réunis. Selon les observations dévoilées jeudi et réalisées grâce au télescope Hubble de l'agence spatiale américaine, la NASA, cette découverte d'eau liquide élargit les pistes de recherche de l'existence de vie extraterrestre dans le système solaire. nous pensons que dans un lointain passé, cet océan a même pu communiquer avec la surface de la Lune, a déclaré le directeur de la division sciences planétaires de la NASA, Jim Green, qui est cité par l'agence France Presse. D'après les calculs de la NASA, l'océan de Ganymède aurait une profondeur de 100 km, soit 10 fois plus que ceux de la Terre. Les planétologues soupçonnaient depuis longtemps, sur la base de modèles d'études de grandes lunes, que Ganymède pouvait posséder un océan. La sonde Galilée de la NASA, qui a étudié Jupiter et ses lunes pendant 8 ans, avait effectué 6 survols rapprochés de Ganymède, détectant un champ magnétique en 2002, première indication confortant l'hypothèse de l'existence d'un océan. Ganymède avait été découverte en 1610 par Galilée. Toujours selon l'AFP, une autre découverte annoncée cette semaine dans la revue britannique Nature accroît encore davantage la possibilité de la vie ailleurs dans le système solaire. En effet, des chercheurs américains affirment avoir découvert qu'Encelade, une lune de Saturne, a une activité hydrothermale, ce qui ouvre la possibilité que la vie puisse y exister.
Par ailleurs, la NASA vient d'annoncer le lancement réussi de la mission MMS, en anglais Magnétosphérique Multiscale. Le vendredi 13 mars, cette mission est dédiée à l'étude de la reconnexion magnétique, un processus fondamental qui permet de transférer l'énergie magnétique aux particules chargées sous forme de chauffage et d'accélération. Il s'agit d'un ensemble de 4 satellites qui effectueront des mesures des particules chargées et des champs électromagnétiques dans la magnétosphère, l'environnement ionisé de la Terre où le mouvement des particules est contrôlé par le champ magnétique terrestre. De nombreux laboratoires américains, européens et japonais sont impliqués dans la mission MMS de la NASA, notamment 2 laboratoires français. Ici Washington, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Carrefour Science et Santé. Le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit depuis plus d'un an en Afrique de l'Ouest dépasse les 10 000 morts selon les derniers chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé. Le Libéria est le pays le plus touché avec plus de 4 100 décès. Viennent ensuite la Sierra Leone et la Guinée. La maladie a également touché, vous le savez, le Sénégal, le Nigeria et le Mali, mais a fait moins de victimes dans ces pays. Toujours selon l'OMS, le virus Ebola a infecté environ 25 000 personnes. On signale par ailleurs l'arrivée vendredi aux États-Unis d'un travailleur de la santé américain souffrant du virus à Ebola. Le malade qui sera soigné aux Instituts nationaux de la santé, le NIH, près de Washington, la capitale, a été évacué de Sierra Leone où il aurait contracté la maladie. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé et le Programme alimentaire mondial des Nations unies ont annoncé un nouveau partenariat dans les pays où sévit le virus Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone donc. Le nouveau dispositif vise à aider à ramener à zéro le nombre des cas de la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, tout en mettant en place une infrastructure d'alerte et de riposte pour de futures crises. On écoute les précisions d'Elisabeth Beuys, porte-parole du PAM.
Ce nouveau partenariat, en fait, concrétise une coopération très importante, va la renforcer, va permettre à l'OMS qui apporte son expertise médicale de mieux soigner, de mieux atteindre les personnes qui ont besoin de leur aide et d'être beaucoup plus efficace. Ça va nous permettre de monter en puissance et de consolider les progrès qui ont été faits dans la lutte contre Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Donc, bien sûr, aider l'OMS à travailler, à traiter, mais aussi à prévenir l'infection, à lutter également contre le retour du virus ou de son extension, également à permettre au personnel de santé de travailler au mieux, et ça va permettre aussi de jeter les bases d'une future collaboration dans le même style, s'il y a d'autres urgences de santé un jour dans le monde.
Le PAM va veiller à ce que les agents de l'OMS qui traquent l'Ebola aient les ressources nécessaires, entre autres le matériel informatique ou les téléphones.
le programme alimentaire mondial, c'est et une énorme machine logistique au service de la communauté internationale et aussi des experts en télécommunications. Donc nous allons pouvoir renforcer l'aide dans ces deux domaines. Nous avons déjà une très forte présence opérationnelle en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. On apporte un support logistique aussi bien au personnel médical que non médical, par air, par mer et par transport routier. Et les experts logistiques du PAM sont là et vont augmenter justement le réseau logistique pour assurer un approvisionnement ininterrompu d'équipements de protection du personnel médical et également de tout le matériel médical qui est vital pour traiter les cas d'Ebola. Et nous avons également établi des entrepôts qui sont disponibles dans les trois pays et qui représentent 30 000 mètres carrés de capacité d'entrepôt de matériel, ce qui est assez important. Nous avons également renforcé notre corridor humanitaire aérien pour permettre de relier de façon extrêmement efficace les trois pays de la région pour transporter non seulement les travailleurs de santé, mais aussi l'aide médicale et l'aide matérielle. Et jusqu'à présent, le programme alimentaire mondial a transporté 9000 passagers à travers ce service aérien humanitaire.
Elisabeth Beuys, porte-parole du PAM, elle était jointe à Genève. Camille Grodidier avec vous pour Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Houston, au Texas, accueillait cette semaine une conférence sur la cybersécurité. Le constat des experts est plutôt sombre, signale notre correspondant au Texas, Greg Flaccus, dont Salwa Jaafari reprend ici le reportage.
Même sans les hackers, l'Internet est vulnérable aux moindres interruptions. À preuve, l'impact de l'ouragan Sandy à New York en 2012, lorsque des milliers de personnes se sont retrouvées privées des services publics les plus élémentaires, électricité, transport, eau potable, pendant que les équipes de réparateurs tentaient de reconnecter ces systèmes à Internet. Chaque jour, les hackers s'en donnent à cœur joie, provoquant des dégâts autrement graves à l'infrastructure du web. De par le monde, les autorités redoutent qu'ils ne paralysent les systèmes publics et c'est ce qui vient de regrouper à Houston des responsables gouvernementaux aussi bien que des experts du privé à l'occasion du Chertoff Group Cyber Security Conference. Parmi les menaces les plus redoutées des pouvoirs publics, celles qui pèsent sur les systèmes énergétiques.
Nous avons détecté des codes et logiciels malveillants sur les systèmes énergétiques. On ignore si c'était pour voler des informations ou s'il s'agissait d'émissions de reconnaissance en prélude des attaques. C'est la spéculation. Mais Saudi Aramco a été attaqué. C'est une société énergétique. Et même s'ils n'ont pas réussi à les paralyser en ligne, ils ont certainement indiqué qu'ils considèrent les sociétés énergétiques comme des cibles.
Il faut s'attendre à ce que ces menaces persistent, a ajouté M. Chertoff, de la part des terroristes ou des gouvernements étrangers hostiles aux États-Unis. Selon un rapport du Center for Strategic and International Studies, le coût de la cybercriminalité se chiffrerait entre 375 et 575 milliards de dollars par an.
Les seuls à être capables de faire ça sont des très grands États dotés de gros budgets qui ont beaucoup de gens à leur disposition, beaucoup de paires d'yeux pour examiner ce qu'on a fait et essayer de le contourner.
Une vigilance accrue et permanente est nécessaire, ajoutent les experts. Parmi les précautions à prendre, ne jamais insérer une clé USB non vérifiée dans un ordinateur branché sur réseau. On peut également définir un cloisonnement des réseaux, resserrer les droits d'accès et authentification et organiser la sauvegarde des restaurations des données. Pour le PDG de la firme de SS8, Faisal Lakhani, c'est encore du côté des usagers que l'on peut beaucoup faire pour protéger les systèmes informatiques. Partout dans le monde, dans n'importe quelle organisation, des gens commettront des erreurs qui faciliteront le travail des hackers, autant que les entreprises s'y habituent et développent des tactiques pour repérer les cyberattaques et y riposter, dit-il. Les stratégies de défense doivent intégrer une démarche de protection préventive, mais aussi des mesures de surveillance, de détection et de réaction.
Grand Didier pour le magazine Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a condamné la recrudescence des attaques contre les personnes atteintes d'albinisme en Afrique, principalement au Malawi, en Tanzanie et au Burundi. Au cours des 6 derniers mois, une quinzaine de personnes ont été enlevées, blessées, mutilées ou tuées. Les albinos sont victimes de superstitions, leurs assaillants croyant que leur chair peut conférer des pouvoirs accrus. C'est faux, explique l'Organisation mondiale de la santé. En fait, l'albinisme est tout simplement un trouble congénital à transmission autosomique récessive. Il se caractérise par l'absence de mélanine dans la peau, les cheveux et les yeux, par suite de l'absence ou d'un déficit de tyrosinase. La tyrosinase étant l'enzyme qui catalyse l'oxydation de la tyrosine, précurseur de la mélanine. Les albinos, du fait de leur peau très claire, risquent des lésions cutanées s'ils s'exposent au soleil et ils développent généralement des cancers de la peau à un âge précoce. Mais ils ne diffèrent en rien d'autre des êtres humains et ne confèrent aucun pouvoir particulier. Nathalie Barge a joint à Bujumbura le président d'Albinos Sans Frontières Burundi qui revient sur le calvaire des albinos en Afrique de l'Est.
Vraiment, ça fait honte, ça fait mal. On n'a pas de mots à qualifier ces massacres qui se passent. Dernièrement, j'ai entendu en RDC et au Malawi aussi. Juste aujourd'hui, même les gens qui sont autour de la frontière avec la Tanzanie, les aides qui sont là, ils ont beaucoup de peur. Ils disent que ça ne va pas. Ce qu'on attend de l'autre côté, chez nous, c'est difficile. Ça fait peur, ça fait peur.
Il y a plusieurs cas où des membres de la famille sont responsables de ces crimes. Est-ce que vous connaissez encore ce type de situation au Burundi où la famille va jusqu'à tuer ou faire tuer son propre enfant ?
La première cas, on l'a eu en 2008, c'était des gens qui disaient que la première fois qu'il a disparu, c'était à cause des parents. Mais les massacres se sont produits chez nous, on n'a pas encore identifié exactement s'il y a des complicités des parents. Mais des complicités des voisins, oui, ça va. Là, on les trouve. Quelqu'un qui vient de la Tanzanie pour tuer un albinos, c'est-à-dire qu'il y a des complicités. Chez nous, depuis la première massacre, c'était une disparition d'un enfant albinos. Août 2008, c'était la complicité des parents. Au mois de juillet 2011, on a fait des condamnations, c'était à Ruigi, où il y avait au moins 13 personnes qui étaient condamnées. Il y avait des différentes peines. Mais malheureusement, c'est que jusqu'aujourd'hui, tous ces gens-là sont évadés de prison. Il n'y en a que 4, d'après ce que je connais, qui sont encore dans la prison de Ruigi.
Quelle a été la peine la plus lourde ?
La peine à vie, une prison à vie. Il y avait d'autres qui étaient pour 20 ans, une année, 3 ans, c'est différent. Mais la plus, c'était 2 personnes qui étaient condamnées.
C'est une déception au Burundi parce qu'il n'y a pas si longtemps que cela, le Burundi était plutôt satisfait, disons, de constater qu'il y avait quasiment plus de ces crimes et finalement ça a recommencé au mois de décembre.
Oui, c'est ça. Même, par exemple, nos voisins, les Tanzaniens, c'est là où ça commence chaque fois. Alors si les Tanzaniens prennent des mesures, ces gens-là se rabattent vers le Burundi. C'est ça le problème qu'on a. Chez nous, même si ces massacres se sont passés, c'est à cause de notre voisin, le Tanzanie. Parce que la Tanzanie, les gens, là, si ça recommence, il fait des grandes sécurités, il met des gens dans un seul endroit, et puis les gens, là, quand ils ne trouvent pas des moyens pour tuer en Tanzanie, ils se rabattent vers le Burundi. C'est pour ça qu'on avait une année de calme, mais malheureusement, c'est le constat qu'on fait. On voit qu'avant les élections, en Afrique, chaque fois, il y a des albinos qui sont massacrés partout.
Monsieur Kassim Zungu, président d'Albinos Sans Frontières, Burundi. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivie.